Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean Roulet.
Bonjour, bienvenue sur l'agenda littéraire de Canal Académie. Cette émission est consacrée au roman de Patrick Modiano, L'Horizon, paru en 2010 aux éditions Gallimard. Il y a une forme d'addiction à suivre cet écrivain qui a pris le passé en filature, à retrouver son univers en chaque nouveau titre, à se mettre dans ses pas, reconnaître ses mots et voir se cristalliser un passé dans le flou de la mémoire. Le passionné de Modiano s'installera dans le bonheur d'une lecture dont, au fil des romans, il a fait un chez-soi.
Depuis quelque temps, Bosmans pensait à certains épisodes de sa jeunesse. Des épisodes sans suite, coupés nets, des visages sans nom, des rencontres furtives. Tout cela appartenait à un passé lointain, mais comme ces courtes séquences n'étaient pas liées au reste de sa vie, elles demeuraient en suspens dans un présent éternel.
Visage sans nom, rencontre furtive, en suspens dans un présent éternel, des mots, des phrases qui ont valeur de signature. Tout en marchant le long des rues, en retrouvant les lieux, Bosman se remémore une époque disparue. Elle lui revient par fragments de vie, par bribes. Il y a toujours chez Modiano de ces moments précieux où la lumière noire du souvenir fait ressurgir les images d'une vie. Un peu comme une photo apparaît dans le bain du révélateur.
Derrière les événements précis et les visages familiers, il sentait bien tout ce qui était devenu matière sombre. Brèves rencontres, rendez-vous manqués, lettres perdues, prénoms et numéros de téléphone figurant dans un ancien agenda et que vous avez oublié, et celles et ceux que vous avez croisés sans même le savoir.
Matière sombre, l'astronomie offre ici une métaphore pour désigner la partie visible d'une vie, la plus vaste. Celle du non retenu, mais aussi du non exploré, tout ce qui aurait pu être et qui n'a pas été parce que le hasard en a décidé autrement. Un sentiment bien au-delà de la simple nostalgie, tel que d'ailleurs à l'occasion, Modiano la récuse. « Mon pari n'est pas un pari de nostalgie, dit-il, mais un pari rêvé. » Face au néant où sombre un lointain passé, le personnage narrateur note ses souvenirs sur un carnet de moleskine noire. Les petits détails de la vie ont leur importance chez Modiano. Leur précision est là pour compenser le flou de la mémoire, lui servir de médiateur et authentifier le récit.
C'était du côté de la bourse, vers 7 heures du soir, à la sortie des bureaux. Les employés s'écoulaient en groupes compacts et ils étaient si nombreux qu'ils vous bousculaient sur le trottoir et que vous étiez pris dans leur flot.
Le premier fantôme à surgir porte un nom mythique, Mérovée.
Un jeune homme aux cheveux blonds bouclés, avec un gilet. Il le voyait même habillé en groom. On oublie les voix, paraît-il. Et pourtant, il entendait encore le timbre de sa voix. Un timbre métallique pour dire des insolences qui se voulaient celles d'un gavroche ou d'un dandy. Et puis brusquement, un rire de vieillard.
D'autres fantômes accompagnent ce Mérovée. Certains dont Bosman se souvient à peine. Un mobilier humain à demi effacé. Parmi tous ces fantômes, Bosmans recherche un personnage qui peu à peu émerge du brouillard, Margaret Lecosse. Bosman et Margaret s'étaient connus au temps de leur jeunesse. Ils s'étaient rencontrés par hasard, dans la bousculade d'une manifestation. Margaret avait perdu l'équilibre, heurté un mur, son arcade sourcilière saignait. On avait dû lui poser un sparadrap dans une pharmacie.
Bosmans avait lu quelque part qu'une première rencontre entre deux personnes est comme une blessure légère que chacun ressent et qui le réveille de sa solitude et de sa torpeur.
Un très beau thème qui traverse le roman et que Modiano décline sur plusieurs modes. celui d'une extrême pudeur ici.
Plus tard, quand il pensait à sa première rencontre avec Margaret Lecos, il se disait qu'elle n'aurait pas pu se produire autrement. Là, dans cette bouche de métro, projetés l'un contre l'autre.
Malgré eux, en somme. Sans une démarche de séduction qui n'aurait pu convenir ni au ton, ni au climat de ce roman. Et puis, il y a eu cette scène, lorsqu'elle avait dit, presque symboliquement,
« J'ai quand même envie d'enlever le sparadrap. »
Elle n'y parvenait pas. Alors, il lui avait proposé son aide. « Attendez, je vais vous aider. »
Il tirait le sparadrap doucement, millimètre par millimètre. Le visage de Margaret Lecos était tout près du sien. Elle tâchait de sourire. Enfin, il réussit à l'enlever complètement, d'un coup sec.
Nous n'en saurons pas plus sur ce que fut, dans les temps qui suivirent, leur complicité sentimentale. Celle de deux fugitifs qui avaient tous deux le passé aux trousses. Margaret fuyait un certain Boyaval et l'acharnement qu'il mettait à se poster en sentinelle pour la surprendre, la suivre, la retrouver où qu'elle fût. Jean Bosmans, quant à lui, tentait d'échapper à un couple cauchemardesque. Sa mère, une gorgone aux cheveux rouges qui le rançonnait, accompagnée d'un homme en noir, aux allures de prêtre défroqué, nous dit le roman. Longtemps, Jean Bosmans et Margaret Lecos n'échangeront que des confidences prudentes, voilées. Et il lui avait dit « Si je comprends bien, tu te caches ici et tu habites sous un faux nom. »
« Il y a un type qui me cherche depuis quelques mois. » Bosmans avait demandé qui était ce type. Elle avait haussé les épaules. Elle regrettait peut-être de lui avoir fait cette confidence. « Un type que j'ai connu. » « Et tu as peur de lui ?»« Oui. » Maintenant, elle paraissait soulagée. Elle restait immobile et fixait Bosmans de ses yeux clairs. « Il connaît ton adresse ?»« Non. » Ce type ne savait pas non plus où elle travaillait. Bosmans essayait de la rassurer. Pariait grand, impossible de retrouver quelqu'un dans la cohue aux heures de pointe. Ils ne se distinguaient pas de la foule tous deux. Ils étaient anonymes.
Bosmans aurait aimé en savoir plus sur ce type, être en mesure de le reconnaître dans la rue. On le sent prêt à intervenir comme il avait amorcé de le faire à l'occasion d'une méprise. Mais Margaret demeurait dans le vague lorsqu'il s'agissait de décrire son persécuteur. Nous apprendrons qu'elle l'avait connu à Annecy, avant de se réfugier en Suisse auprès d'un certain Bagherian, qui lui avait offert un vague emploi de gouvernante. Rattrapée par ce Boyaval, elle avait cherché asile à Paris où elle travaillait dans une maison d'intérim lors de sa rencontre avec Bosmans. Elle habitait Auteuil.
Quand il lui avait demandé pourquoi elle avait choisi une chambre dans ce quartier lointain d'Auteuil, elle lui avait répondu « c'est plus sûr ». Lui aussi s'était réfugié presque à la périphérie, tout au bout de la tombissoire, pour échapper à ce couple agressif qui le poursuivait. Mais ils avaient découvert son adresse, et sa mère était venue un soir taper du poing à la porte de sa chambre, tandis que l'homme attendait dans la rue.
Comme dans une scène d'arrestation. Bosmans était familier d'un tel climat. Rien de ce qui pouvait favoriser la fuite n'échappait à son regard. Par exemple, il avait noté que la configuration des lieux où travaillait Margaret offrait une bonne garantie de sécurité.
Un escalier à double mouvement où celui qui montait ne croisait jamais celui qui descendait. Et puis l'immeuble avait une autre porte cochère, rue de Valois. Il avait dit à Margaret, pour plaisanter, qu'elle n'avait rien à craindre du dénommé Boyaval. S'il la guettait dehors, elle s'échapperait par une autre issue. Et s'ils se trouvaient par hasard dans l'escalier double, elle et Boyaval, ils ne se rencontreraient jamais et elle aurait le temps de s'enfuir.
Jean Bosmans et Margaret Lecos forment un couple en parfaite cohérence avec l'univers de Modiano. Dans une interview accordée à l'Express, il reconnaît avoir mis beaucoup de lui en chacun d'eux. Peut-être inconsciemment, je suis les deux à la fois, reconnaît-il. La discrétion de Bosmans apparaît d'autant mieux qu'elle s'oppose au sans-gêne d'un Mérové, à sa façon de forcer la main et de parler sans retenue. Autre personnage qui contraste avec Bosmans, Bagherian, homme de contact et d'action. Héros sympathique, peut-être, mais sans entrave sociale, non plus que morale, on le devine. Aucun de ces personnages n'est tout d'une pièce. Ils n'en sont que plus vrais et conservent une part de mystère, une identité secrète. Bagherian cultive un certain raffinement dans son langage et ses manières, mais si on lui résiste, il s'impose sans ménagement. Bosmans, toujours soucieux de passer inaperçu, d'occuper le moins de place, peut sortir de sa réserve et faire jouer sa carrure, si ce n'est plus lui qui est en cause, mais Margaret, sa compagne de clandestinité. Et que penser de Boyaval, le sombre persécuteur, l'énigmatique Boyaval, devenu ce qu'il est sous les épreuves de la vie? Sa rencontre avec Margaret n'a pas été qu'une blessure légère. Non, la blessure légère, avec un peu de sang, il le recevra de Baguerian. Mais sans le vouloir, comme pour en finir, Margaret lui avait fait subir une blessure morale profonde. Alors, pour ce personnage d'une cruelle et banale vérité, peut-il y avoir un horizon, un salut? Peut-être. Plus encore que Bosmans, le roman tourne autour de Margaret. Qui est Bosmans? Savoir qu'il est écrivain pourrait suffire à l'identifier. On peut penser que Modiano avait d'abord écrit ce roman à la première personne. Qui est Margaret? Margaret, c'est la démunie, lancée dans la vie sans bagage, sans attache, orpheline de tout repère. Margaret, la passe-frontière, ballottée entre plusieurs pays, reliée entre eux par des trains de nuit propices à la fuite, mais avec un passeport périmé. Sans doute la figure centrale du roman, tout comme Lucky avait pu être celle du café de la jeunesse perdue. Margaret Lecos est le pivot de toutes les situations. Elle actualise tous les thèmes. En dépit de son nom breton, elle traîne le complexe de ses origines. Pour Mérové, pas méchant, mais toujours aussi peu délicat, Margaret devient la boche, parce que le hasard l'a fait naître à Berlin. C'est que les bien-nés n'abondent pas dans les romans de Modiano, ou alors ils se nomment Fern. Ils sont charmants, sans doute, mais ils impressionnent un peu trop. À les approcher, on se prend facilement les pieds dans le tapis de leur décor bourgeois. Le souvenir lointain de Margaret, la place qu'elle a pu prendre dans la vie de Jean Bosmans, font de l'horizon le roman d'une angoisse existentielle, une révolte contre la précarité. Car ce qui a été ne peut pas ne plus être, il en survit bien quelque chose en quelque lieu intemporel, là où ce qui fut s'éternise, un présent éternel tel que Modiano le nomme.
Est-on vraiment sûr que les paroles que deux personnes ont échangées lors de leur première rencontre se soient dissipées dans le néant, comme si elles n'avaient jamais été prononcées? Et ces murmures de voix, ces conversations échangées au téléphone depuis une centaine d'années, ces milliers de mots chuchotés à l'oreille, tous ces lambeaux de phrases de si peu d'importance qu'ils sont condamnés à l'oubli. Margaret Lecos, Lecos en deux mots. Vous habitez dans le quartier? Non, du côté d'Auteuil. Et si toutes ces paroles restaient en suspens dans l'air jusqu'à la fin des temps et qu'il suffisait d'un peu de silence et d'attention pour en capter les échos? Alors, vous travaillez dans le quartier? Oui, dans les bureaux. Et vous? Oh, moi, je travaille dans une librairie.
Oh, moi? Mais il avait dit ça comme ne s'accordant que peu d'importance et peu enclin à se raconter. Un vrai personnage de Modiano, flottant dans une réalité fragile, contaminée de trop d'incertitudes. Le temps finit par se déliter dans sa mémoire et Bosmans cède à l'illusion, autant qu'à l'espoir, d'un monde parallèle.
Une fille marchait devant Bosmans en poussant une voiture d'enfant et elle avait de dos la même silhouette que Margaret. Il ne connaissait pas ce parc, sur l'emplacement des anciens entrepôts à Bercy. Là-bas, de l'autre côté de la Seine, le long du quai qui ne s'appelait plus de la gare, des gratte-ciels. Il les voyait pour la première fois. C'était un autre Paris que celui qui lui était familier depuis son enfance, et il avait envie d'en explorer les rues. Cette fille devant lui ressemblait vraiment à Margaret. Il la suivait tout en gardant entre elle et lui la même distance. La voiture d'enfant qu'elle poussait d'une seule main était vide. À mesure qu'il traversait le parc, sans la quitter des yeux, il finissait par se persuader que c'était Margaret. Il avait lu la veille un roman de science-fiction, Les Corridors du Temps. Des gens étaient amis dans leur jeunesse, mais certains ne vieillissent pas, et quand ils croisent les autres, après 40 ans, ils ne les reconnaissent plus. Et d'ailleurs, il ne peut plus y avoir aucun contact entre eux. Ils sont souvent côte à côte, mais chacun dans un corridor du temps différent. S'ils vous laissent parler, ils ne s'entendraient pas comme deux personnes qui sont séparées par une vitre d'aquarium.
Incluons dans cette lecture un souvenir personnel, celui d'un autre temps. Au retour de l'école, un camarade vous confie. « Mon père l'en a empêché, mais ma mère a voulu s'ouvrir les veines, parce que quelqu'un a dit qu'on était juif, alors que c'est même pas vrai. » En ces années-là, et surtout à cet âge, on ne comprenait pas vraiment. Et puis, on se perdait de vue. Impossible de dire ce qu'est devenue cette famille. Elle habitait, elle aussi, en périphérie d'une ville. Après plusieurs décennies, en passant devant ce qui fut leur maison, on voudrait remonter à un de ces corridors du temps imaginés par Modiano, retrouver ce camarade sur le chemin de cette école et le convaincre de ne plus parler de ça à personne. À personne, tu m'entends, l'ami, à personne. Oui, c'est ce qu'il aurait fallu lui dire. Patrick Modiano n'a pas vécu cette époque, mais il l'a reçue en héritage. Depuis la place de l'Étoile, elle n'a jamais cessé de hanter son œuvre. Le spectre d'une arrestation, d'une fouille, d'un internement, de telles menaces ou ce qui en retentit longtemps après, comment ne pas les associer à ces personnages sur le qui-vive, perpétuellement traqués, toujours prêts à s'enfuir, attentifs à la moindre possibilité de se cacher ou de disparaître. Asphyxie. Bosman s'interroge sur un temps où ce qu'il écrivait était si noir, si étouffant.
Pourquoi avoir rempli en ce temps-là les deux cahiers d'une petite écriture qui trahissait la sensation d'angoisse et d'asphyxie ? Il crut trouver la réponse. Tout ce qu'on vit au jour le jour est marqué par les incertitudes du présent.
Outre l'asphyxie, sa façon d'écrire, serrée, tassée, d'envahir les marges, traduisait une volonté d'effacement. Le souci toujours de ne pas attirer l'attention, ne serait-ce qu'en traversant un endroit trop en vue. De prendre le moins de place possible, ou encore de choisir la place la plus discrète, celle d'où on peut le mieux voir tout en étant le moins vu, et de s'en faire sa place habituelle. Le thème de l'étouffement est omniprésent. Il s'apparente à la phobie de l'internat ou de l'internement. On ne peut espérer qu'une évasion de soi, le soulagement de voir enfin s'ouvrir un horizon. Cette délivrance, Margaret l'avait un instant ressentie en Suisse, chez Baguerian et son équipe de secrétaires. Un peu de vodka, et les gens autour de vous sont soudain différents. Vous ne les entendez plus de la même manière, même si les mots pour leur répondre viennent toujours aussi mal.
Elle se rendait bien compte que les quelques mots qui sortaient de sa bouche étaient de plus en plus confus. Mais pour la première fois de sa vie, elle n'éprouvait aucune gêne, aucune appréhension. Elle n'avait plus cette crainte qui la torturait depuis toujours en présence des autres, de n'être pas à la hauteur.
Avec elle-même et avec les autres, Margaret était bien, enfin. Bien avec Baguerian et avec tout un milieu qu'elle avait pu imaginer hostile. Désinhibée, elle parvient à se faire entendre et apprécier. Des mots tout simples, mais qui la traduisent et la libèrent. Elle avait osé dire « J'aime celui qui m'aime ». Et Margaret avait entendu la secrétaire lui répondre
« Mais oui, c'est très joli, j'aime celui qui m'aime. Vous me l'écrirez pour que je n'oublie pas. » Baguerian lui demandait « Vous n'aimez pas la vodka ?» Mais si, elle aimait tout. Elle n'était pas contrariante. Elle vida son verre d'une seule gorgée. Dehors, sur le trottoir, elle se demanda si la secrétaire allait rentrer avec eux à l'appartement. Mais non, la secrétaire dit à Baguerian « À demain, Michel !» Et ils se serrèrent la main. Puis elle se retourna vers Margaret et lui sourit. « Vous m'écrirez cette phrase sur l'amour, hein ? C'est tellement joli !» La voiture glissait, moteur éteint, le long de l'avenue d'Ouchy. La pente lui causait un léger vertige. Elle flottait. Elle posa sa tête sur l'épaule de Bagarian.
N'est-ce pas ça, l'horizon ? On change et l'horizon s'ouvre. Et tout est différent autour de vous. Les autres ne sont plus les mêmes. Ils ne sont plus ce qu'on s'imaginait, en tout cas. Même l'accent allemand n'est plus celui de Berlin. C'est un Allemand du Sud, un Allemand marseillais. Et cette idée fait rire Margaret. Il y a dans cette scène l'annonce d'un horizon enfin libéré. Alors qu'à une époque, elle avait pu se demander à propos de Boyaval si toute sa vie, cette silhouette noire lui cacherait l'horizon. Pour Jean Bosman, ce fut lors d'un été indien que s'ouvrit l'horizon.
C'était les mois de septembre et d'octobre. Oui, il respirait un air léger pour la première fois de sa vie. Il faisait encore clair quand il quittait les éditions du Sablier. Un été indien dont on se disait qu'il se prolongerait pendant des mois et des mois. Pour toujours, peut-être. Avant de monter chez Simone Cordier, il entrait dans l'immeuble voisin, au coin de la rue La Pérouse, pour corriger les pages qui lui donneraient, et surtout, les mots illisibles. Le dactylogramme de Simone Cordier était parsemé de signes curieux. Des O barrés d'un trait, des trémas à la place des accents circonflexes, des cédilles sous certaines voyelles, et Bosmans se demandait s'il s'agissait d'une orthographe slave ou scandinave, ou tout simplement d'une machine de marque étrangère dont les touches avaient des caractères inconnus en France.
Et Bosman se sentait en harmonie avec la machine à écrire de Simone Cordier. Ces caractères inconnus en France étaient comme l'aveu libérateur d'un très ancien problème d'identité.
Il se disait qu'il faudrait conserver de tels signes au cas où il aurait la chance d'être imprimé. Cela correspondait au texte et lui apportait ce parfum exotique qui lui était nécessaire. Après tout, s'il tenait à s'exprimer dans le français le plus limpide, il était comme la machine à écrire de Simone Cordier, d'origine étrangère lui aussi. Quand il sortirait de chez elle, il ferait de nouveau des corrections dans le café, cette fois-ci sur des pages dactylographiées. Il préférerait rester dans ce quartier. Il lui semblait atteindre un carrefour de sa vie, ou plutôt la lisière d'où il pourrait s'élancer vers l'avenir. Pour la première fois, il avait dans la tête le mot « avenir » et un autre mot « l'horizon ». Ces soirs-là, les rues désertes et silencieuses du quartier étaient des lignes de fuite qui débouchaient toutes sur l'avenir et l'horizon.
Un horizon que l'écrivain croit pouvoir toucher de sa plume. Car tout semble devenir possible à partir de ces pages dactylographiées. En offrant une chance d'être un jour imprimées, elles apportent l'espoir d'une libération. Elles ouvrent la voie aux pages qui suivront, celles qui, dans le roman, vont partir à la recherche des fantômes du passé. Puisqu'on vous dit qu'ils sont encore là, dans un éternel présent. Tout comme Bosmans, le lecteur veut y croire. À quoi servirait le miracle de l'écriture, sinon à ces cadeaux que la vie courante vous refuse ? Retrouver un passé ? Atteindre un horizon ? Tout comme convergent les lignes de fuite sur cet horizon, tous les renseignements recueillis par Bosmans semble converger sur un même espoir. La libraire qu'il va bientôt rencontrer, là-bas à Berlin, au terme de son enquête, serait bien la Margaret Lecoste qu'il recherche. Même s'il l'avait crue morte, même s'il ne devait pas la reconnaître, même si la pluie veut démentir l'été, même si la venue suivie par Bosmans porte un nom imprononçable, et même si un horizon n'a jamais cessé de fuir à mesure qu'on s'en approche, il est encore possible d'y croire. Un superbe roman dont la fin se propose à l'imaginaire du lecteur. Merci de votre écoute et à bientôt pour un nouvel agenda littéraire sur l'antenne de Canal Académie.